France Inter. Bonjour à toutes et à tous. Combien sommes-nous à avoir tremblé au son des trois corps représentant le loup imaginé par Prokofiev dans Pierre et le loup? Combien sommes-nous à avoir imité l'éléphant au rythme de la contrebasse du Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns? Combien sommes-nous à avoir découvert la musique de Paul Ducasse grâce à Fantasia et son apprenti sorcier? Nos trois invités du jour connaissent ces œuvres par cœur et vont tenter de nous expliquer le plaisir que nous avons à écouter ce répertoire avec nos enfants. Maureen Dor, Marina Chiche et Camille Poujalaguier, je vous salue. Bonjour.
Bonjour Eva.
Maureen Dor, vous êtes autrice, éditrice, comédienne et le 15 juin à la scène musicale à Paris, vous présenterez le spectacle musical pour enfants, Le Jeu Pas Sorcier. Marina Chiche, violoniste, concertiste, musicologue, comédienne aussi grâce au seul en scène intitulé Concerto pour une violoniste bavarde et vidéoprojecteur, un spectacle coécrit avec Hortense Bellotte. Et vous êtes également l'autrice d'un livre formidable, Musicienne de légende, c'est chez First et Radio France en coédition. Camille Poujalaguier, on est très heureux de vous voir. Vous avez déserté l'équipe de Grand Bien Vous Fasse dont vous faites partie pour occuper pendant quelques mois le poste de responsable de la médiation culturelle à la direction de la musique de Radio France. Et avec nous, vous le connaissez, le vendredi, c'est un peu la grande bande de Grand Bien Vous Fasse, Thibaut de Saint-Maurice, bonjour.
Bonjour Eva.
Quel sera le thème de votre chronique philosophique?
Alors moi je prends classique, mais je décale un peu la question. Que faire de nos classiques, des classiques en général, de musique, de littérature, de peinture?
Eh bien on vous écoutera avec attention, Guillemette Odissino, je crois que nous aimons votre ami un peu tous en fait, hein. Un indice ou pas?
Écoutez, j'espère un indice, non c'est un indice très personnel, je crois que c'est la femme qui m'a fait le plus pleurer. Mais pleurer de bonheur.
Bon, vous allez pleurer là tout à l'heure?
Non, je vais me retenir.
D'accord. Sandra Colombo, bonjour.
Bonjour Eva.
À quoi va ressembler votre chronique Mauvaise Langue?
À ma vie, comme d'habitude. Je parle de moi, j'adore ça. Voilà. Je voulais vous parler de quand j'étais petite et que je n'étais pas grande, ce qui est toujours le karma.
Bonjour Christine Appelé-Douel.
Bonjour.
Je vais vous donner la parole très rapidement pour découvrir votre coup de cœur littéraire, mais je crois que je connais l'auteur. N'en dites pas plus.
Non, je ne dis rien. On ne sait pas qui c'est.
Et Céline Puertas, rédactrice en chef adjointe de À la Table. Ravie de vous retrouver. Bonjour Céline.
Bonjour Eva.
Qu'allons-nous cuisiner ce matin?
Alors une recette de semi-freddo aux fraises, un genre de yaourt glacé hyper facile à faire à la maison.
Voilà, et très très léger, j'imagine bien. Nous sommes toujours le 6 juin, vous écoutez France Inter. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse.
France Inter. Grand Bien Vous Fasse. Eva Rock.
On a envie d'en parler de cette musique, vous ne trouvez pas? Et les enfants aussi ont eu envie d'en parler, parce que dans leur tête, leur sont venues plein d'images, plein d'histoires.
C'est un château entier avec un fantôme dedans. Moi, ça m'a fait penser quand ça faisait... Et là, c'était une fusée qui démarrait. Quand c'était fort, c'était pas triste, mais quand c'était pas fort, c'était triste.
Moi, je trouve que c'est très joli.
Tu trouves que c'est très joli?
Et moi aussi.
Mais nous aussi, c'est très joli. Extrait d'un reportage de 1978, disponible sur le site de l'INA. Maureen Dor, ses œuvres, elles nous ont nourris quand nous étions enfants. Je parlais du Pierre et le Loup, je parlais du Carnaval des animaux. Est-ce que ça a été votre cas? À quel âge vous avez-vous découvert la musique classique?
Alors, moi, j'ai découvert par le disque pour Pierre et le Loup, mais en Belgique, d'où je viens, il y avait une institution qui s'appelait l'Orchestre La Musique Racontée aux Enfants. Et on y allait une fois par mois, avec ma grand-mère qui emmenait ses petits-enfants, etc. Et grâce à ça, on découvrait une œuvre, et j'ai adoré ça. Et j'ai eu la grande chance, 30 ans après, de pouvoir devenir l'animatrice aussi de l'Orchestre à la Portée des Enfants, au même endroit. Et c'est quelque chose de magique, parce que, comme je sais à quel point moi ça m'a marqué, j'espère que ça a continué à marquer les enfants.
Oui, mais alors justement, j'ai une petite question à ce sujet, parce que moi je suis convaincue que cette approche, quand on est enfant, elle nous marque longuement. Pour autant, est-ce que vous avez écouté de la musique classique quand vous étiez ado, et puis ensuite quand vous êtes devenue adulte?
Oui. Alors c'est ça qui est assez magique, c'est que j'ai deux ados, enfin maintenant des jeunes adultes, et c'est étrange, et un jour je les ai entendus écouter de la musique classique. Alors, de la musique classique, je sais pas, qui les faisait un peu pleurer. Mais quelque part, il se passe quelque chose. Et c'est en dehors de nous. Alors oui, moi, j'ai joué d'un instrument, donc forcément la musique classique, j'en ai entendu. Et je viens d'une famille où on entendait beaucoup de musique classique, donc j'ai toujours su que c'était pas forcément ennuyeux. Et ce qui me choque un peu, c'est que c'est souvent associé le côté... Alors, élitiste, ça, on connaît l'histoire, soi-disant que ce serait élitiste, la musique classique, mais aussi, soi-disant, ennuyeux. Comme si c'était un truc qui devait forcément être triste et sinistre.
Ah, pas du tout.
Alors qu'il y a plein de musiques classiques qui sont merveilleuses, qui sont drôles, qui sont joyeuses.
Exactement. Mais alors, petit sondage dans le studio, vous levez la main pour juste que je vois à peu près. Qui n'a pas écouté Enfant, Pierre et le Loup avec ou sans Gérard Philippe comme récitant? Vous avez tous, vous l'avez tous écouté. Qui connaît le Carnaval des animaux de Saint-Saëns?
Moi.
À part Thibaut, non, Thibaut, vous n'avez pas dansé sur Camille Saint-Saëns?
T'as jamais regardé l'ouverture du Festival de Cannes, Thibaut?
C'est la musique de Camille Saint-Saëns, c'est ça.
Bien sûr. Voilà. Ne vous moquez pas de mon inculture.
Et Fantasia?
Ah oui,
oui.
Tout le monde. Tous.
Et moi, j'aime cette musique, tellement cette musique. Pierre et Leloup, Prokofiev. Et vous avez vu, à 100%, on a tous grandi avec cette musique. Marina Chiche, je voudrais qu'on commence par râler. Comme ça, c'est fait, vous allez comprendre.
Là, avec Prokofiev, comme ça, là, ça donne envie de sourire.
Mais oui, mais parce qu'il y a quand même un paradoxe. Donc, on commence un peu à voir de quoi il s'agit avec Maureen, parce qu'on reconnaît les bienfaits de la musique classique, on va en parler. Ouais. On incite les enfants à le découvrir, à la découvrir. Et puis après, ben, plus rien. Et on a l'impression que la musique classique, elle n'existe pas ou très peu dans les médias généralistes, en tout cas.
Alors, c'est compliqué de dire ça sur France Inter, parce que moi, j'en avais fait un combat d'essayer d'amener un peu par réfraction un peu de musique classique, mais c'est vrai qu'il y a eu une disparition avérée de la programmation de musique classique. Alors il y a quelque chose qui a été positif, parce qu'à un moment donné, sans doute, on ne considérait comme une musique digne d'être diffusée que la musique classique, donc avec quelque chose d'assez violent symboliquement, mais au détriment des autres musiques. Oui. Mais maintenant, il y a presque un renversement de domination, et finalement la musique se retrouve reléguée, un peu stigmatisée, ghettoisée avec plein de guillemets, mais sur France Musique uniquement. Et c'est bien dommage, parce qu'on a beaucoup travaillé pendant des années à la question de l'accessibilité, rendre accessible, ce dont parle Maureen, plein d'actions, notamment que mènent les orchestres et qui continuent d'être menées. Et puis maintenant, avec les plateformes en ligne, la musique classique est accessible. Si vous avez une connexion Internet, vous avez tout le patrimoine et un petit peu maintenant le matrimoine musical en ligne gratuitement. Mais le problème maintenant, c'est ce qu'on appelle, en termes québécois, la découvrabilité. C'est-à-dire quand vous êtes submergé de ce choix à disposition, comment vous allez être mis en contact. Donc on a besoin de personnes qui fassent de la médiation. Donc c'est formidable, des spectacles comme ce que fait Maureen ou ce que fait Camille.
Avec Radio France, on va en parler. Alors on va rester positif tout au long de cette émission, si vous en êtes d'accord. Quels sont les effets de la musique sur le cerveau des enfants? On le sait, ça?
Oui, alors pas que sur les enfants. Oui. En fait, les bienfaits de la musique sur le cerveau, il y a tout un pan de neurosciences qui est consacré aux effets de la musique, et les bienfaits ne sont plus à démontrer avec des études très très sérieuse. Alors, on sait que la musique, au-delà des effets qu'elle peut avoir sur l'humeur, par exemple, on vient de l'entendre, mais Prokofiev, alors il y a des raisons presque musicologiques pour lesquelles ça nous fait du bien. Il y a le côté majeur, il y a un certain rythme qui balance, etc. Et donc, ça vient toucher dans notre cerveau à la fois ce qu'on appelle la cognition, donc la manière d'apprendre, des apprentissages, une dimension sensible, les émotions, qu'est-ce que ça exprime, etc. Et puis, même une notion de motricité. Ça nous donne envie de nous mettre en mouvement. Là, le ta-tim, pa-pam, pam-pam. On a envie de se balancer.
Oui.
Donc, ça a plein de vertus pour l'apprentissage, pour les enfants. On sait que pour le langage, par exemple, c'est très favorable, en fait, d'être dans une écoute active.
Vous parlez combien de langues, Marina?
Ça, c'est une question piège. J'en ai étudié 7.
Vous en avez étudié 7. Vous avez commencé à jouer du violon
avant 3 ans.
Avant 3 ans. Est-ce que vous pensez que cet apprentissage de la musique vous a facilité dans l'apprentissage des langues?
Franchement, il y a plein de biais. C'est-à-dire que si on m'a fait commencer le violon avant 3 ans, ça peut induire d'autres choses. Donc, je ne suis pas dupe. Mais c'est vrai que dans ma manière d'apprendre, c'est par l'audit. Je suis très, très auditive. Aussi, dans la manière de mémoriser. Vous savez, on a différents canaux de mémorisation. C'est, moi, ça passe énormément par l'oreille.
Guillemette?
Mais parce que là, on parle de quelqu'un qui est vraiment à travailler la musique, est devenue musicienne, mais pour les enfants normaux, comme moi, par exemple, moi, je trouve qu'il y a comme une zone blanche. C'est-à-dire que le Carnaval des animaux, Pierre et le Loup, nos parents nous offraient même des 33 tours, et on écoutait ça, c'était comme un passage obligé. Oui. Les parents se sentaient obligés de nous initier. Et puis tout d'un coup, ça s'arrête. C'est-à-dire, c'est comme si après Prokofiev, il n'y avait pas Mozart. C'est-à-dire, je ne sais pas pourquoi, une fois que c'est fait, entre guillemets, et que Gérard Philippe nous a raconté un truc, après, les parents se disent, bon, bah, elle n'a qu'à continuer toute seule. Sauf que, non.
Et eux n'ont pas continué souvent.
Et eux,
par
alors, à moins que eux soient, évidemment, mélomanes.
Exactement.
Mais autrement, c'est comme si ça s'arrêtait. On vous initie un truc, et après, on vous lâche dans la nature. Et c'est pour ça qu'en fait, y a la suite ne se fait pas.
Camille Pouget-Laguier, je voudrais très rapidement, on va y revenir sur tous les concerts que vous faites à la Maison de la Radio, mais vous avez constaté avec ces concerts pour enfants que même les plus petits, ils expérimentent toutes les émotions à travers la musique, la peur, la joie, la tristesse. Et quand je dis tout petit, vraiment, même avec des enfants à la crèche, hein, vous
Alors,
avez
en
essayé.
Fait, on adapte l'atelier ou le concert par rapport à l'âge, effectivement. Donc maintenant, on essaie d'ouvrir au plus jeune possible, donc effectivement à partir de 8 mois. Ouais. Donc il n'y a pas une énorme interaction, mais on se dit que pour les biais cognitifs, c'est hyper important de faire ça. Et puis ça reste hyper ludique, c'est un moment familial, donc... Tant qu'on peut être sans écran, c'est toujours bon à prendre.
Ouais.
Et après, pour les classes, donc on commence en grande section de maternelle. Donc c'est quand même une aventure. On les voit arriver à 300 à l'auditorium de Radio France. C'est trop chou. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant. Mais en revanche, les maîtresses nous disent que ça les porte pendant les 6 mois qui suivent.
C'est ça. Ouais.
Et ça, je veux dire, ça n'a pas de prix.
On va reparler des ateliers chorales, notamment, que vous menez. On va continuer aussi à évoquer les bienfaits de la musique classique sur nos enfants. Mais il est 10h16 et il est temps de retrouver une certaine Tantalis. Christine Appelé-Douel, vous avez lu le nouveau roman d'un auteur que nous connaissons très bien.
Oui, et d'ailleurs, je profite de son absence pour en parler, parce que sinon, lui étant là, ça aurait été un petit peu gênant. Et par ailleurs, je souligne quand même le fait que j'en parle, parce que je trouve ça vraiment très chouette. Sinon, j'aurais pas dit un mot, je me serais défilée habilement. Donc voilà, les deux raisons pour lesquelles j'en parle aujourd'hui. Alors, dans la série Tantalis Enquête, on a eu un premier.
Vous n'avez pas donné le nom de l'auteur. Hein.
Ah, mais ça, et peut-être que ce pourrait être un certain Ali Rebbi. Peut-être. Dans la série Tantalis Enquête, puisque c'est le titre générique, nous avons eu un premier volume, et puis voilà le deuxième qui arrive. Je dis bien le deuxième et pas le second, puisque je suppose qu'il y en aura d'autres qui suivront. Et bien, Tantalis continue. Voilà. Alors, Tantalis, qui est-elle ? Tantalis, c'est une prof de droit pénale à la retraite, et qui est une femme très jolie, pleine d'énergie, très rigolote, et qui habite, oh surprise, dans une petite ville, pas un petit village, qui s'appelle Valmont-sur-Loing. Vraiment, c'est curieux. À proximité de forêt de Fontainebleau. Et donc, elle vit dans cette petite ville, avec son neveu qui est psychologue et qui consulte dans un petit pavillon dans le jardin. C'est une cuisinière de premier plan.
Et on a tellement faim quand on lit les romans.
Ah, il y a beaucoup de recettes, mais ça j'en parlerai après, à la fin. Et surtout, c'est une curieuse, mais infernale, à l'esprit affûté, et qui ne peut pas s'empêcher, Tantalis, de mettre son nez dans ce qui ne la regarde pas. Voilà. Elle anime par ailleurs un club de lecture, elle a plein d'amis dans le village, et entre autres, un amoureux qui ne se déclare pas, Haroun, qui est le propriétaire d'un salon de thé qui s'appelle Essaouira London, parce qu'il a des parents qui sont à la fois marocains et anglais. Et voilà qu'il y a un célèbre producteur qui habite dans le village, un producteur de télévision, et qui fait une alléchante proposition à Tantalis de venir animer une émission de télé sur les faits divers. Alors, elle est toute énervée, toute excitée. D'ailleurs, au passage, je trouve que dans cette petite ville de Valmont-sur-Loing, il y a beaucoup de célébrités. Bon, c'est vraiment beaucoup. Mais pas de chance. Quentin Duval, donc le producteur, est retrouvé mort au pied de l'escalier de sa sublime maison le soir d'Halloween. Pas n'importe quel jour. Alors, évidemment, Tantalis se lance sur la piste, vous pensez bien qu'elle ne peut pas résister. Je remarque aussi d'ailleurs qu'il y a quand même un taux de criminalité dans cette petite ville de Valmont-sur-Loire, quand même, qui défie toutes les statistiques. Et elle se lance. Alors les surprises seront très nombreuses. Alors c'est acidulé, drôle, malin, c'est un vrai bonbon. C'est un plaisir de lecture et surtout les personnages dans ce deuxième volume prennent encore plus de chair. C'est vraiment un régal. Alors, offrez-vous le tome 1, si vous voulez les deux. Hein. Pour les vacances, c'est parfait. Moi, j'adore Tante Alice, j'espère bien la retrouver bientôt. Et quant à Ali, alors petit message, Ali, si tu m'entends, mais je sais que tu n'écoutes pas, on aimerait bien avoir le livre de cuisine de Tante Alice.
C'est une super
idée.
Ça fait
un moment que nous sommes plusieurs à lui suggérer.
Excellent.
Et j'aimerais bien avoir la recette des sablés à l'orange. J'en ai mangé. Et des scones aux dattes. Je n'en ai pas encore mangé. Donc, Ali, vraiment, il faut que tu fasses un effort.
Message passé.
Et voilà, et je verrais bien aussi une série télé qui suivrait, qui prendrait le personnage de Tante Alice. Ça serait bien, voilà. Et c'est aux éditions du Masque. Mention spéciale pour les super couvertures signées Janie. Elles sont vraiment extra. Voilà.
C'est très beau. Merci beaucoup, Christina Pelé-Douel. Si nous sommes nombreux à avoir vibré au rythme du récit de Pierre et Loulou, nous sommes nombreux et nombreuses aussi à avoir grandi avec l'ami de Guillemette Odissino.
France Inter.
Chouette, tu es Harry Potter ?
Grand bien vous fasse.
Je suis Hermione Granger et...
Évite de choisir tes amis parmi les gens douteux. Je peux te conseiller.
Guillemette, on aime tellement cet ami du jour.
Eh oui, chère Eva. Quand j'étais petite, sur mon mange-disque orange...
Qu'on a tous eu.
Ouais. Enfin, pas tous, hélas, il y a des gens quand même qui sont nés après, heureusement, nous. Et puis, sur le lecteur de cassette, j'écoutais une belle dame aux longs cheveux noirs, au grand nez fier et au regard mélancolique qui m'impressionnait sur la pochette des 45 tours. Elle me racontait des histoires de pommes vertes ou rouges, ou m'expliquait comment monter un escalier d'une manière étrange qui me rendait intelligente. « Bel escalier, puis-je monter ? Mais oui, madame, il faut payer. À la première marche, que dois-je vous donner ?»« Donnez, donnez, madame, tout ce que vous voudrez. Je n'ai que mon mouchoir, me le faut pour pleurer. Donnez votre mouchoir, plus jamais pleurerai. » Et c'est avec elle que j'appris que sur la musique, certains mots pas si enfantins ouvraient des horizons.
J'ai une maison pleine de fenêtres, pleine de fenêtres.
Elle s'appelait Anne Sylvestre. Ce n'était pas son vrai nom, et pour cause, car son père avait été le bras droit d'un salaud, hein, le bras droit du fasciste Jacques Doriot. Et cette honte, cette tristesse sous la peau, comme elle disait, elle la chanta bien plus tard dans Roméo et Judith. Anne Sylvestre fut tellement populaire de son vivant, avec ses fabulettes, donc ses comptines poétiques qui firent sautiller et rêver les enfants pendant plus d'un demi-siècle, qu'on oublia longtemps qu'elle était la Georges Brassens au féminin. Ses fabulettes, elle ne les interpréta jamais sur scène. Ses concerts étaient pour les grands, et surtout pour les grandes.
Oui, parce que votre amie Anne, elle a écrit les textes sans doute les plus puissants et féministes qui soient.
Oui, et avant-gardistes, chère Eva. Ce n'est que bien plus tard que j'ai découvert que les fabulettes étaient l'arbre qui cachait la forêt sylvestre. Et c'est grâce au cinéma. C'est dans un film que j'ai entendu pour la première fois les gens qui doutent. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. Et c'est une cinéaste de mes amis qui un jour m'envoya le lien audio d'une sorcière pas comme les autres. Et j'ai pleuré, Eva, à la première écoute. Pleurer de découvrir qu'il existait une telle chanson, un tel texte qui résumait à lui tout seul toute la condition féminine. Au journaliste qui lui demandait si elle était féministe, elle répondait « évidemment, comment ne pas l'être ?» Dans « La vaisselle », elle parle de parité, y compris dans les charges domestiques. Dans « Clémence en vacances », elle évoque la charge mentale. Dans « Petit bonhomme », la sororité et l'emprise mentale d'un homme sur une femme. La chanson « Douce maison », elle, est une métaphore moderne du viol et de la culpabilisation des victimes. Et bien sûr, il y a « Non, tu n'as pas de nom » sur le choix d'avorter, une chanson sortie en 1974, avant la dépénalisation de l'interruption volontaire de grossesse. Que savent-ils de mon ventre ? Pensent-ils qu'on en dispose quand je suis tant d'autres choses ? Aujourd'hui, les gens qui doutent, ma chérie ou une sorcière comme les autres, sont devenus des tubes. Des tubes et même des hymnes. En 2023, ces chansons ont généré 18 millions d'écoutes sur les plateformes audio, dont 2 millions rien que pour les gens qui doutent. Et mon amie comprenait pour un troubadour, pour une simple fenêtre, pour les yeux des enfants, est enfin reconnue comme la plus belle des portes, ouvertes sur la vie par les adultes. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi. Et c'est l'ancêtre ou c'est l'enfant, celle qui cède ou se défend. C'est Gabrielle ou bien Eva, fille d'amour ou de combat, Ce n'est que toi, Anne ? Oui, c'est toi, Anne, ma sœur, qui a tout vu venir. Alors merci, mon ami. Merci pour la tendresse.
Soyez comme le duvet. Soyez comme la plume d'oie.
Merci beaucoup. Bon, évidemment, tout le monde pleure dans le studio. Voilà, c'est malin. Mais bon, comme chaque semaine, la chronique de Guillemette Odissino est à podcaster et à partager depuis l'application de Radio France. On aimerait tellement continuer à écouter tout ça. Toutes les émissions de la semaine sont à podcaster. Il y avait cette semaine Claire Destacan à la réalisation, Florian Dorimini, Paola Collin, Tilaï Ravut, Nicolas Delmas, Julien Dumont, Loïs Frappassos, Élise Christophe, Guillaume Roux à la technique. Au standard, ils ont relayé vos messages. Yaël, Dylan, Alexandre, Yoni, Bénédicte, Chiara, Emma et Noé, Cyrine Bagnounès, Nathalie Romero, Lucie Grandet-Lavigne, Candice Leray et Antoine Poitras étaient à la préparation de l'émission. Merci pour votre soutien cette semaine. Avant de replonger dans les œuvres du répertoire classique, allez, une petite pause musicale plus rock avec les Beatles.
Sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time.
Par les Beatles, vous écoutez France Inter.
France Inter, grand bien vous fasse, Eva Rock.
La Marche Royale par Camille Saint-Saëns. Je voudrais remercier l'institutrice dont je ne me souviens malheureusement pas du nom qui a organisé un atelier expression corporelle sur la musique de Saint-Saëns. Les enfants étaient invités à imiter les animaux qu'ils pensaient reconnaître. J'avais aux alentours de 6 ans et je n'ai jamais oublié.
Vous allez vraiment jouer avec nous en accompagnant l'orchestre avec un geste. Apprenti. Sorcier. Des centaines de balais dans l'atelier du maître. Autant que
extrait de votre spectacle, Maureen Dor, le jeu pas sorcier. Maureen, quand vous avez proposé spectacle, vous pensiez aux enfants et aux parents parce que vous l'avez conçu comme un jeu. Deux équipes qui s'opposent au rythme de la musique de Paul Ducasse.
Oui, exactement. Alors, c'est pas moi qui ai écrit le spectacle, c'est Sybille Wilson. Et en effet, l'idée, c'était de faire connaître l'œuvre
En fait, on croit souvent que les parents savent tout, mais ils ne connaissent pas spécialement. Et surtout, si vous n'êtes pas musicien, ben, vous ne connaissez pas les mécanismes de la composition, ou j'en sais rien. Et donc, l'idée, c'était de faire découvrir l'œuvre aux parents, aux enfants, à travers un jeu qui les, où je pose des questions, et aussi à travers des gestes. Parce que c'est exactement ce que vous disiez tout à l'heure. Quand vous étiez petit, vous aviez dansé.
Le corps se met en mouvement.
Et ça, c'est très important. Et en fait, l'œuvre de l'apprenti sorcier ne dure que 10 minutes. Donc, c'est ça qui est génial. C'est qu'on peut faire pendant 50 minutes tout un travail autour de... Et alors, l'apprenti qui est joyeux, quel instrument va exprimer sa joie? Est-ce que c'est le violon? Est-ce que c'est la harpe? Est-ce que c'est la clarinette? Et si on dit, bah, c'est le violon, mais oui, grâce au pizzicato. Pizzicato ou le staccato. Et donc, on explique tout ça. Bon, j'ose pas trop le faire devant des musiciennes et des musicologues, mais l'idée, c'est ça. Et ensuite, comme dans l'apprenti sorcier, il y a des thèmes très précis qu'on peut retrouver facilement, même s'ils sont un peu différents selon l'humeur de l'apprenti, ouais. Par exemple, eh bien, on leur fait jouer le geste. Et quand on rejoue, quand l'orchestre ou le groupe rejoue le morceau, eh bien, les enfants
ils repèrent.
Et les parents peuvent repérer le thème. Bref, ils rentrent dans l'œuvre. Et ça, pour moi, c'est la grande... C'est ma grande joie et c'est ma grande fierté de présenter ce spectacle. C'est ça. C'est de savoir que quand ils ressortiront, ils auront vraiment l'impression d'être rentrés dans l'œuvre, de l'avoir comprise, alors qu'ils ne sont pas musicologues et qu'ils ne sont peut-être même pas musiciens.
Ouais. Marina Schisch, le jeu, c'est une bonne entrée pour,
Bien sûr.
Pour appréhender la musique classique.
En fait, en vérité, on dit jouer d'un instrument.
Mais
enfin,
oui.
Cette dimension ludique, elle est vraiment là. Après, ça dépend évidemment les musiques. Il y a des musiques qui s'y prêtent plus ou moins. Et là, c'est vraiment des textes où, en plus, il y a un narratif derrière. Donc, cette dimension de narration, elle vient stimuler l'imagination et la question de dont parlait Maureen, d'instrumentation ou d'orchestration, elle a été vraiment utilisée par les compositeurs comme telle. Donc moi, je trouve qu'en plus, là, ce travail sur la mémoire, la familiarisation dans un premier temps, et puis la réécoute, ça, c'est extrêmement vertueux, parce que c'est cette nécessité d'être familiarisé. On aime plus quelque chose qu'on connaît déjà.
Bien sûr.
Donc, au plus on est familiarisé, au plus on va aimer. Là, ça revient à notre question du début. Il faut de la musique classique aussi sur France Inter.
Eh oui. Marina Schisch, vous avez vécu une grande expérience. Enfin, je dis grande, en tout cas, moi qui m'a bouleversée quand vous me l'avez raconté, vous avez joué auprès d'enfants qui sont hospitalisés.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé et quelles étaient les différentes réactions que vous avez pu découvrir aussi, vous, de votre côté?
Oui, alors c'était avec une association Musique et Santé qui travaille donc dans cette idée d'amener de la musique à ce qu'on appelle des publics empêchés, de fait, quand vous êtes hospitalisé. Et donc là, en plus, c'était un service pédiatrique, donc il y a une émotionnalité très intense. Et ce qui était frappant, c'est-à-dire qu'il y a eu des accueils très différents selon les salles, les chambres. Et c'est vrai que ça a suscité une grande réflexion pour moi, parce qu'il y a des salles dans lesquelles je suis arrivée où on était très très bien accueillis, un peu comme des, je sais pas, des prophètes qui venaient faire un grand cadeau musical. Et donc c'était, voilà. Et puis il y avait des moments où en fait, c'était pas le moment. En fait, il y avait pas envie de musique. C'était absolument pas même acceptable. Il y avait potentiellement même une violence. Et ça m'a fait penser au... Il y a un très beau livre, essai de Pascal Quignard, qui s'appelle La haine de la musique. Ça paraît paradoxal de parler de haine de la musique dans notre émission ce matin, mais c'est quand même de pas oublier que, en fait, il dit une chose très belle. Il dit les oreilles n'ont pas de paupières.
Ah, c'est beau.
Donc en fait, des fois, on peut vous imposer une musique. Et ça, c'est très dangereux. Parce qu'avec même toutes les bonnes intentions qu'on puisse avoir, même si c'est la plus belle musique du monde, potentiellement, si on vous l'impose et qu'on vous met de la discipline dessus et que c'est pas le moment, eh ben, finalement, l'effet, il est violent. C'est obéir et entendre. Quoi.
D'ailleurs, Camille Pujalaguier, quand les enfants viennent pour les concerts de Radio France, mais pareil avec Maureen, mais là, il y a le côté jeu, donc c'est pas tout à fait pareil.
Heureusement, c'est génial.
Quand il y a cette capacité de concert, enfin, ils viennent pour un concert, ils apprennent des règles qui est, on essaye de pas trop bouger, il faut faire silence, il faut écouter les musiciens. Et ça, c'est aussi cet apprentissage-là qui se joue quand ils viennent à la maison de la radio.
C'est vrai que c'est pas très ludique, ça paraît assez contraignant. Alors pour les tout petits, justement, on fait un éveil musical dans les maternelles pour faire des clés d'écoute, parce que vous disiez qu'il fallait les réécouter après, mais écouter avant pour savoir, ah tiens, je reconnais cet air, je l'ai chanté, je l'ai tapé dans mes mains, donc c'est beaucoup plus incarné. Mais c'est vrai que les musiciens ont malgré tout besoin de se concentrer, même si c'est une répétition générale. Et puis pourquoi pas leur donner aussi un cadre, je veux dire, on peut aussi s'amuser et savoir que c'est le temps de la répétition et ils jouent le jeu comme les grands, donc ça marche très bien.
Marina Schisch.
Oui, et puis il y a une nécessité du silence pour la musique classique, donc c'est-à-dire c'est un peu notre feuille vierge sur laquelle on va dessiner. S'il y a déjà plein de gribouillis, c'est compliqué. Mais justement, important le fait de prendre le temps dans la médiation, de poser ce cadre, mais comme une condition de réception favorable et ludique. Voilà, c'est très important, donc vive la médiation.
Vous aviez envie qu'on écoute quelques notes de cette musique ? Je vous laisse donner le nom de l'œuvre et du compositeur.
Ça, ah oui, bah... c'est toujours moi qui fais les annonces. Ah oui. Alors, nous étions sur. Non, c'était Schöne Rosmarin de Fritz Kreisler. Donc, Fritz Kreisler était un grand violoniste autrichien, et donc c'est une valse. C'est une valse qu'il composait pour à la fin de ses concerts, quand les gens avaient applaudi en bis, encore, comme on dit en anglais, encore, il jouait ses petits bonbons musicaux. Et donc, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'extrêmement joyeux dans cette musique. Il y a la mobilité de la valse. Donc, souvent, on peut entendre des choses dans des clichés véhiculés sur la musique classique. Oui, mais c'est une musique classique, il faut rester assis, droit, et puis ça donne pas envie de bouger, ça donne pas envie de danser, c'est trop sérieux. Eh bien, là, on est dans une musique classique qui pourtant est une forme de divertissement, qui a une légèreté, qui a une rythmique. Donc, en fait, le problème aussi de la musique classique, c'est le terme. Oui. Parce que dire musique classique, ça dit rien. Il y a tellement de musique.
Christine Lapalédoué.
Oui, il y a une dimension très importante dans l'écoute. Alors, enfant ou adulte, peu importe. Ce sont les images que suscite musique. Et là, moi, quand j'entends Kreisler...
Vous pensez à quoi ?
Je pense tout de suite, alors vous allez me dire, complètement obsédée, chocolat et crème chantilly.
Oui.
Je pense à ça et à Feuchtrosan.
Moi, je pense un peu à Sissi Impératrice aussi, mais c'est pas péjoratif.
Mais oui.
Non, les valses en Sissi, c'est pas ce... Non, je sais pas, je suis pas d'accord.
C'est plus lourd. Ouvrez vos oreilles un petit peu. Je vous ai vu réagir, Maureen Dor.
Oui, parce que tout à l'heure, vous disiez en même temps, quand les enfants sont petits, ils doivent apprendre à se taire, etc. En fait, exactement, ils peuvent aussi apprendre que l'ennui, ils vont peut-être un peu s'ennuyer à certains moments, et bien leur dire, voilà, tu vas t'ennuyer, mais tu vas voir qu'en t'ennuyant, tu vas avoir, comme vous dites, des images, parce que moi aussi, j'ai eu tout de suite des images, et qu'en fait, quelque part, apprendre l'ennui, c'est peut-être pas si négatif que ça.
Quelle image vous aviez, vous, juste pour savoir?
Ah oui, moi j'avais l'image d'une belle dame avec une robe à faux cul, qui est dans un salon de thé, il y a une forme d'élégance quand même. Oui. C'est vrai que c'est de la musique qui implique pour moi une élégance morale et l'image, et c'est chouette aussi, c'est bien.
Marina Chiche?
Oui. Non, c'est-à-dire que je suis un peu embêtée parce que c'est... une porte d'entrée, mais si vous mettez une sonate de guerre de Prokofiev par exemple, le piano, il défonce le piano.
Oui, je veux dire,
donc on est très très loin d'une forme d'élégance.
Et
je veux dire par là qu'il y a toute la palette, mais mille fois d'accord, Maureen. Ce que je veux dire, c'est que moi, quand j'étais amenée à faire des séminaires d'écoute musicale à Sciences Po, et quand je disais musique classique, les étudiants s'attendaient à justement un type de classicisme, d'élégance, de trucs un peu guindés et datés. Et puis en fait, quand vous envoyez certaines musiques, il y a une modernité qui vous explose les oreilles, c'est dissonant, c'est à la limite agressif.
Oui. Voilà,
mais bien sûr, et il y a des contextes historiques ou des nécessités esthétiques, etc. Et donc il y a une vraie diversité de la musique classique. Et donc c'est dommage de rester. Et c'est cette magie-là aussi.
On les aime quand même, les valses. Hein. On les aime quand même, ces valses-là.
On les kiffe.
Je vais mettre au dissino.
Non, mais je voudrais juste rajouter un petit truc, parce que là, on parle de moments dédiés à l'écoute de la musique, on parle d'ateliers. On parle de... Après, donc ça nécessite effectivement un petit peu de patience, ou un petit peu d'ennui, mais d'ennui, disons, créatif. Mais on peut aussi considérer que la musique, pardon, mais c'est un fond sonore.
Si j'ai
aimé la musique classique, c'est parce que maman foutait ça en fond sonore toutes les deux secondes, quoi. Et c'est devenu une espèce de chose qui n'était du coup pas du tout impressionnante.
C'est un tissu.
Et la première fois que j'ai mis en fond sonore un opéra de Verdi à la maison, mes enfants se sont arrêtés net.
Bah oui.
Mais parce que dans le fond, ils sentaient qu'on leur racontait une histoire. Et après, voilà, ils ont écouté plus précisément certains morceaux, etc. Mais cette histoire que, justement, la musique classique, elle peut pénétrer le foyer sans arriver, justement, sans tambour ni trompette. C'est-à-dire qu'on peut la mettre comme ça dans un coin et qu'en fait, ça marche tout seul. Le côté attention chérie, je mets un disque, ça c'est l'horreur quoi.
Mais ça, il y a des études en neurobiologie qui expliquent très bien que les enfants qui n'ont pas eu de musique à la maison ou qui ont été dans un environnement trop bruyant où ça crie beaucoup, où on ne leur parle pas, où on ne leur chante pas, par exemple en termes d'hyperactivité, de comportement agressif, on voit vraiment des différences avec des enfants qui ont baigné, je reprends le terme de bain, qui ont baigné dans cette musique. Camille Pujalaguet, le spectacle de Maureen, il est conseillé aux enfants à partir de 6 ans. Et j'ai cru comprendre que c'était parfois un casse-tête pour vous de déterminer l'âge minimum pour chaque concert, et c'est pas un détail hein, si je dis ça. Hein.
C'est vrai qu'on réfléchit tous ensemble avec les musiciens de l'orchestre, avec l'équipe pédagogique, à partir de quel âge, et on le grave un peu dans le marbre, et ça peut faire un peu rigide. Mais en fait, il y a vraiment des raisons de temps, de bruit, ça peut faire très mal aux oreilles quand c'est un peu plus contemporain, de peur aussi, la musique peut faire peur. Donc il faut effectivement, tout le monde pense que son enfant est un génie, donc on vient 2 ans avant ce qu'il a écrit.
C'est vrai d'ailleurs.
Non mais c'est vrai, si on a un petit frère, je comprends.
Les miens en tout cas, c'est des génies.
Mais il faut quand même essayer de prendre en compte l'âge, parce qu'on a réfléchi à la durée, à la peur que ça peut procurer. La dernière fois, il y avait La Reine des Neiges, mais pas version Disney. Quand il y a des éclairs, que ça se termine mal et qu'on pense que c'est bien de venir à 4 ans, les enfants doivent sortir, donc c'est un peu dommage.
Oui. Marina Chiche ?
Oui, la question de l'âge, elle est importante, c'est vrai, et en même temps, il y a quelque chose de très sympa aussi dans des formats, quand j'ai fait le spectacle le concerto pour une violoniste bavarde, on l'a mis à partir de 6 ans et en fait, on, à la sortie du concert, enfin du spectacle, on s'est rendu compte qu'on s'adressait tout autant aux enfants qu'aux parents, et on s'adresse à l'enfant intérieur, en fait.
Transition toute trouvée, parce que je voulais vous demander, Maureen, est-ce que de faire ce spectacle et de monter ce projet, ça vous a fait du bien à vous aussi? C'est-à-dire que, est-ce que par exemple vous avez redécouvert la musique? Est-ce que vous vous nourrissez de l'énergie des enfants et des parents qui sont devant
évidemment,
vous?
Évidemment, ça me fait un bien fou. D'abord parce que j'adore ça, la musique. Et donc, je trouve ça merveilleux de transmettre, quelque part, de participer à la transmission d'une culture, d'une richesse. Ensuite, moi, ça me fait côtoyer des musiciens. J'ai une admiration sans borne pour les musiciens. Et alors, moi, quand je lis, parce que là c'est avec un sextuor, le sextuor Khéops, mais je l'ai aussi joué avec l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège. Et là, il y a eu des moments où je me mets au milieu des musiciens, au milieu de l'orchestre. Je suis donc au milieu de la musique. Vous savez, parfois...
En termes d'énergie,
c'est extraordinaire. Je suis dedans. Donc, c'est une chance inouïe de pouvoir participer à ces projets, parce que ce que font les musiciens, c'est merveilleux.
Christine Appelé-Douelle ?
Oui, en parlant de bain musical et tout ça, il y a en tout cas ici à Radio France, une institution extraordinaire qui est la maîtrise et qui est ouverte à tous les enfants. Alors, il y a d'autres formations du même genre qui sont aussi étonnantes, mais quand on voit qu'il y a des enfants absolument de tous les milieux qui peuvent être ouverts, et alors la pratique du chant en plus, et à Radio France, enfin, il y a une chef de chœur qui est absolument géniale, Sophie Janin, on peut la citer, c'est extraordinaire. Moi, j'aurais bien voulu en faire partie.
Moi aussi, vraiment.
Mais bon, ouais. Voilà.
On a plein de choses qu'on aurait voulu faire. C'est pas des regrets, parce que bon, voilà.
Mais attendez, je comprends pas, vous pouvez... ok, vous ne ferez pas partie de la maîtrise, mais faire partie d'une chorale. Moi, je fais partie d'une chorale.
Il y a chorale et chorale. Hein, mais c'est très bien pour les enfants de démarrer comme ça.
Alors,
mais...
à propos des chorales, Camille Pujalaguet, vous avez fait des expériences avec les tout-petits de chant choral.
L'avantage du chant, c'est qu'on n'a besoin de rien déjà. Donc, on peut avoir juste sa voix, on tape dans les mains et c'est bon. Et on a fait des chants avec des anciens maîtrisiens qui sont maintenant chefs de chœur pour des ateliers pédagogiques, avec 3 chants qui sont sur une plateforme qui s'appelle Vox et on peut répéter en avance si on veut, mais en l'occurrence les enfants ne l'avaient pas fait. Ils arrivent avec des chants compliqués, tout est relatif, mais assez longs, et au bout de 45 minutes, ils les connaissent par cœur, sans aucun problème. Et alors que ça peut paraître un petit peu difficile d'accès, et en fait, en 40 minutes, ils savent 3 chants trop mignons et hyper bien. Donc mais c'est assez impressionnant.
Ça passe par le corps.
Par le corps.
Le chant, ça passe par le corps.
Mais pas seulement le chant.
Ça passe aussi par le chant.
Parce que les instrumentistes, c'est vraiment un geste qui vient de très loin, de tout le corps. Ce qu'on oublie parfois, et je repensais tout à l'heure quand on parlait d'ennui et d'imagination, ce qui était très beau et très important, c'est qu'aussi, vous mettez un enfant juste devant un orchestre ou des instrumentistes qui jouent, c'est quand même un niveau de divertissement et de fascination. Enfin, moi, je me souviens, enfant, une première fois que j'ai vu une contrebasse ou les instruments avant, enfin, même si j'étais initiée au violon, il y a une variété et puis le type de sonorité. Donc, moi, j'ai entièrement confiance dans la capacité de mobiliser l'attention.
L'attention et l'imagination. Vous retrouverez sur la page de l'émission, évidemment via l'application de Radio France, toutes les références des spectacles de nos invités ainsi que la programmation des concerts à la maison de la radio. Merci de nous avoir emmenés dans votre univers. Mais il est 10h44 et à ce moment-là, il est temps de donner la parole à Thibaut de Saint-Maurice.
France Inter, grand bien vous fasse.
C'est pas un truc d'intello la philosophie, c'est pas de la masturbation intellectuelle. Personne n'a à vous dire ce que vous devez penser, hein. Personne, jamais.
Thibaut, de la musique classique au classique, il n'y a qu'un pas que vous franchissez pour vous demander ce matin, que faire des classiques?
Oui Eva, des classiques, il y en a partout, donc en musique, hein, la marche turque de Mozart, la 5e symphonie de Beethoven ou les airs de Carmen de Bizet, mais il y en a aussi en littérature, figurez-vous, le malade imaginaire, Madame Bovary, Germinal, les fleurs du mal. Et puis aussi au cinéma, en peinture, en architecture, dans la mode, le tailleur Chanel, le smoking Saint-Laurent, le corset de Jean-Paul Gaultier, et puis les exemples sont infinis, multiples, etc. Mais la valeur de tous ces classiques n'est pas très claire. D'un côté, le classique est une valeur sûre qui a fait ses preuves et qui est largement partagée. Un classique du cinéma comme La Grande Vadrouille, bon, c'est un bon film que beaucoup de gens ont vu et que l'on continue de montrer à ses enfants, tandis qu'un tableau de Monet surprendra toujours aussi, même si on l'a déjà vu 1000 fois. Mais d'un autre côté, le classique sonne parfois comme un reproche. On peut s'en servir pour dominer, pour classer ou hiérarchiser entre ceux qui les connaissent et ceux qui ne les connaissent pas. Et puis ce qui est classique, c'est aussi ce qui peut manquer d'originalité ou ce qui n'est pas suffisamment créatif. Le classique semble condamné à la répétition, voire à un certain goût médian. Le classique, c'est ce qui plaît à tout le monde, comme finalement l'impressionnisme, les fables de La Fontaine ou la musique de Mozart.
Ouais, d'où la tendance et peut-être la nécessité de revisiter des classiques.
Oui, la tendance est forte aujourd'hui chez tous les créateurs et les créatrices et elle fait parfois grincer les plus conservateurs. Mais c'est pourtant là la clé, je crois, pour maintenir vivante l'inspiration de ces grandes œuvres. Ça me fait penser à cette punchline du poète René Char qui disait « Notre héritage n'est précédé. » Voilà, notre héritage n'est précédé d'aucun testament. En disant ça, René Char pointe à la fois le tragique de notre modernité, puisque sans testament, nous ne savons pas toujours quoi faire ou comment distribuer l'héritage que nous recevons. Mais sans testament aussi, nous voilà toutes et tous libres de recevoir, d'essayer, d'inventer, avant de transmettre à notre tour. Au fond, c'est la seule manière de maintenir une certaine tradition vivante, non pas de répéter ses classiques et de s'y tenir, en les enseignant comme des valeurs absolues, mais au contraire, de les connaître, de bien les comprendre et de les réinterpréter. La puissance d'une œuvre classique, alors d'un concerto de Schubert comme d'un roman de Balzac, d'un tableau de Léonard de Vinci comme d'une pièce de Racine, c'est à la fois de traverser l'histoire et les générations et à la fois d'entrer en résonance avec chaque époque et de raconter une histoire à chaque génération, voire à chaque personne. Une œuvre classique réussit le tour de force donc d'être à la fois intemporelle et à la fois toujours actuelle. Mais à la condition d'être maintenue vivante et non pas simplement d'être précisément et historiquement conservée, restaurée, répétée. Alors comment est-ce qu'on les maintient vivants, ces classiques? En faisant l'effort de les comprendre à nouveau. Le philosophe Wittgenstein disait « Comprendre, c'est savoir comment continuer ». Et pour comprendre, donc, il faut prendre le temps de se pencher dessus à nouveau, de relire, de revoir, de réécouter, d'analyser encore et de proposer des interprétations nouvelles, de remettre en scène finalement, comme le font régulièrement le théâtre et l'opéra. Et c'est ainsi que ces classiques continuent de constituer des références largement partagées qui installent entre nous une culture commune et un langage commun. Alors pire que d'être héritier d'un héritage sans testament, ce serait de ne pas avoir d'héritage tout. Parce que la richesse de nos individualités contemporaines ne sera jamais suffisante pour raconter la puissance et la diversité de toute l'humanité. Il me paraît donc important de connaître ces classiques, bien sûr, précisément pour pouvoir continuer de les transmettre et de s'en éloigner régulièrement pour finir ainsi par en créer de nouveaux. C'est en tout cas une excellente raison de continuer à écouter de la musique classique avec ses enfants pour qu'ils inventent un jour leur propre partition.
Merci infiniment Thibaut. Je crois qu'on a tous validé tous les propos que vous avez. Hein, on est d'accord, hein ?
Ouais, c'était formidable. Absolument d'accord. Ouais.
Votre chronique est à réécouter et à partager sur le site de Radio France. Alors je ne sais pas vous, mais on s'approche de l'heure du déjeuner. Oui, bah oui, moi j'ai faim à 10h48. La faim se fait sentir. Heureusement, Céline Puertas, vous êtes là. c'est un dessert qui a retenu votre attention et je sens qu'il va être très 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 léger ce dessert, c'est ça?
Mais oui, je voulais faire une petite blagounette, j'aurais pu vous proposer une recette d'opéra, lourdeur, lourdeur de la journaliste food. Bon, mais du coup, je me suis dit non quand même, c'est bientôt l'été, on va partir sur quelque chose d'un peu plus frais, un semi-freddo aux fraises. Donc qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est un yaourt glacé caché sous un nom un peu prétentieux, c'est pour ça que j'ai choisi, mais c'est absolument délicieux. Donc pour préparer ce semi-freddo, on dépose, écoutez bien parce que franchement, d'habitude je mens en disant c'est facile à faire, je vous assure que là c'est vraiment facile à faire. On dépose 800 g de yaourt grec dans un torchon propre, on l'emmaillote bien et on le laisse s'égoutter dans une passoire pendant 6 heures. Ensuite on prend 300 g de fraises coupées en morceaux, on les dispose dans un plat saupoudré d'un peu de sucre et on met au four pendant 20 minutes à 180 degrés et on laisse tiédir tranquillement. Pendant ce temps-là, on mélange le yaourt grec bien égoutté avec 125 g de sucre, on ajoute les morceaux de fraises cuites, on remélange un peu, on verse dans un plat type moule à cake qu'on a recouvert de film alimentaire et on met au congélo pendant 4 heures. On est quand même à la fin de la recette. Il suffit ensuite de le sortir 30 minutes avant de le déguster et on peut rajouter quelques petites fraises fraîches dessus. C'est un régal absolu. Pour terminer, rien à voir avec le yaourt glacé, évidemment, j'avais encore un truc à dire. Je me suis amusée à chercher quels étaient les plats préférés des grands compositeurs. Souvent, en plus d'être passionnés par la musique, ils étaient littéralement obsédés par la bouffe. Les huîtres et les raviolis au parmesan pour Rossini, le hareng fumé et les macaronis pour Beethoven, le café pour Bach et Mozart, ce gros glouton, adorait la choucroute servie avec des quenelles de foie. Voilà.
Merci Céline Puertas, je ne pensais pas que vous alliez parler de Mozart comme un gros glouton, mais pourquoi pas, voilà.
Il y a une cantate sur le café de Bach.
Voilà, exact. C'est vrai, exact. Merci Marina Chiche.
On est tous des gros gloutons.
Merci pour cette recette. Avant de donner la parole à Sandra Colombo, on s'offre une pause musicale pop avec Yoa.
Oh oh, je dois tout recommencer. Recommencer. Oh oh, réécrire comme je l'avais pensé. C'est l'histoire d'une fille qui demande au miroir. C'est bizarre de rêver sans jamais y croire. Pourquoi la vie que d'imprévu inattendu. Toujours elle vise jamais où tu l'avais vu. Quel étais-tu? Pourquoi la vie n'est remplie que d'imprévu inattendu. Toujours elle vise jamais où tu l'avais vu. Quel étais-tu?
Yoa.
Bon bah, elle est gentille si on veut, mais...
France Inter.
Malgré tout, elle manque un petit peu de fantaisie. Hein.
C'est cela, oui, oui.
Grand bien vous fasse.
Écoutez, Thérèse, je n'aime pas dire du mal des gens, mais effectivement, elle est gentille.
Elle est tellement gentille qu'on lui donne la parole, Sandra Colombo, c'est à vous.
Je veux pas être mauvaise langue, Eva, mais qu'est-ce que c'est encore que ce thème d'émission qui pousse à l'introspection? Non, mais faut pas me faire des trucs comme ça, moi. Je suis fragile, Eva, ça me met dans des états. Parce que moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, mais dis donc, Colombo, c'est quand que tes oreilles ils ont découvert la musique classique pour la première fois? Ben, je crois bien que c'était ça. Vous souvenez?
Eh oui.
Vous souvenez de cette pub pour des serviettes hygiéniques? Où on voit déambuler toutes ces femmes dans la nature avec leurs pantalons blancs moulants, souriantes et épanouies et heureuses. Tout ça grâce à la sphaigne. Oh là là, c'était l'époque merveilleuse où le SPM et l'endométriose n'existaient pas et où le sang était bleu. Alors peut-être que c'était pas tout à fait le cœur des bohémiennes de la Traviata de Verdi. Peut-être ma première fois, c'était ça. Mes mains ont la parole.
Et oui.
Récréa 2, Dorothée. Vous vous souvenez? Non, ça n'est que bien plus tard que j'ai appris que c'était le concerto pour piano numéro 21 K467 de Mozart. Mozart, le Joule du 18e siècle. Quand j'étais môme, la musique classique, c'était ma cam. Je me défonçais au concerto, j'écoutais le boléro gros. Et ça m'a valu bien des moqueries à l'école. Des vas-y la bourge, et oh l'autre l'intello, alors que j'avais même pas de lunettes. On m'a mis direct dans la case de la fille nulle, qui préfère la Habanera à Manureva. Quand j'étais petite, je ne comprenais pas pourquoi cette musique était qualifiée de classique. Classique. Non mais on entend Mocassin à gland, Col Claudine, voire messe en latin. En même temps, pardon, mais parfois, c'est bizarre les mots, hein. C'est comme si certains, ils sonnaient pas juste, comme s'ils tombaient à côté de nos oreilles. Tiens, par exemple, des gingandés. Bah, moi j'ai longtemps dit des guingandés,
ah oui.
Comme dans guingois, ce qui irait mieux avec la démarche disloquée, vous trouvez pas?
Bah oui.
Ou alors le verbe réifier. Par exemple, dans Dominique Pellicot a réifié son épouse, ce qui est la caractéristique des grands pervers, je n'entends pas il a abominablement fait de sa femme une chose, j'entends il a fait d'elle une reine. N'importe quoi, mon cerveau. Eh ben, dans musique classique, j'entends pas c'est plan-plan, c'est chiant-chiant, j'entends la vie, j'entends les cœurs, j'entends l'intensité, la vibration, la lumière. Oh, mais moi, j'ai tellement aimé ça, me prendre pour Karajan, lever ma baguette imaginaire bien plus puissante que celle d'Harry Potter. Même si, à mon époque, le seul magicien que je connaissais, c'était Garcimore. Et il n'avait pas de baguette magique. Bref, vous ne la voyez pas. Bref. Voilà, Eva. Voilà ce que ça me fait. Ça me fait la nostalgie du trop beau. La musique classique, c'est mon syndrome de Venise à moi. Moi qui suis plutôt hyperactive, capable de faire 12 choses à la fois, il n'y a qu'à l'opéra, où je peux rester des heures, quasi sans bouger, le cœur ouvert tout en couleur, comme dirait Dalida, totalement happée par la musique que je ne trouve pas du tout classique. Alors, messieurs, dames, les parents qui êtes à l'écoute, n'hésitez pas, faites ce cadeau à vos enfants, apprenez-leur, offrez-leur les clés de ces émotions. Même si ça doit être en cachette, hein, pour pas qu'il se fasse harceler à l'école. Mais allez-y, parce que le classique, c'est magique.
Merci infiniment, Sandra. Sandra, vous êtes au Point Virgule tous les mardis à 21h15, et ce jusqu'au 24 juin, avec votre spectacle Que faire des cons.
Et après, je file au Festival d'Avignon pour jouer tout le festival.
Il y a plein de gens qui vont venir vous voir, Guimette, hein, vous lire et réagir.
Oui, parce que ça me fait penser que moi, j'ai découvert Peur seule, grâce à Klaus Nomi, mais grâce à une pub de saucisson.
Et alors là, Marina Chiche a envie de s'évanouir.
Ça me fait penser qu'aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle des cours de music appreciation, des cours pour apprécier la musique, comme vous avez de l'histoire de l'art, par exemple. Et c'est vrai que je repensais à cette idée de la zone blanche. C'est bien d'initier les enfants, mais en fait, pourquoi ne pas mettre la musique vraiment aussi au top dans l'éducation nationale ?
Sandra ?
Et surtout, on ne se rend pas compte à quel point, par exemple, des immenses films ont commencé par des immenses musiques.
Bien
la Chevauchée des Valkyries, Apocalypse Now, quand on l'écoute, on ne se dit pas « Oh là là, c'est classique, c'est chiant ». Non, on se dit « Wow ».
C'est même une porte d'entrée, la BO des films, pour faire aimer la musique classique aux enfants. Ouais.
Camille Pujalagui, je voudrais qu'on finisse en disant quelques mots de la formidable série, enfin collection de podcasts que Radio France propose, notamment aux enfants, mais aux enfants et aux parents.
Et en fait, ce qui est insoupçonné, c'est le nombre de musiques classiques qu'il y a dans ces podcasts. En fait, on fait un spectacle, un podcast qui devient un spectacle, comme par exemple Tout Doux. Ça devient un petit atelier musical avec Zoé Varier. Les Odyssées symphoniques de l'Orgue en Besançon, Octave et Mélo pour France Musique, Les Contes de la Maison Ronde, Oli aussi, tout ça, ça devient des concerts. Donc si vous regardez la brochure, vous allez voir que vous allez pouvoir découvrir vos héros de podcast en concert qui prennent vie.
Et alors, on a mis toutes les indications, évidemment, avec la brochure, en l'occurrence sur la page de l'émission. C'est l'application Radio France, évidemment. Marina Chiche, Maureen Dor et Camille Pujalagui, merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin. Un grand merci à vous, les amis du vendredi, aux auditeurs et auditrices qui ont réagi tout au long de la semaine. Lundi, Ali Rebeilly sera de retour au programme La Cuisine Végétarienne. Et dans un instant, Nagui et la bande originale vous accompagnent jusqu'à midi. Leur invité est Hugo Clément.